Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, il sera question de torches humaines. Et on part tout de suite en Tchécoslovaquie en 1969 avec un homme, Jan Palach, dont on célèbre le 50e anniversaire du martyr. Il s'est immolé par le feu pour lutter contre le totalitarisme.
Au cœur de l'histoire.
On prend à présent la direction de la Tunisie qui connaît de nouvelles agitations sociales à quelques jours des célébrations du 8e anniversaire du printemps arabe avec le suicide cette semaine d'un journaliste au chômage qui s'est immolé. Un geste semblable à celui qui avait déclenché le mouvement de colère tunisien fin 2010. Un événement qui fait bien sûr ressurgir le spectre d'une nouvelle révolution.
C'était il y a quelques semaines en Tunisie. Une fois de plus, un homme devait jouer les torches humaines pour réveiller les consciences, sortir de leur torpeur les opinions publiques. Ce geste fait écho à un autre plus lointain qui se passait en 1969 à Prague, en Tchécoslovaquie. On était en pleine guerre froide et un jeune étudiant, Jan Palach, a décidé lui aussi de s'auto-immoler par le feu. Un geste politique, un geste symbolique qui nous rappelle toute l'histoire du printemps de Prague. On dit parfois qu'il faut une flamme pour lancer une révolution, et avec Jan Palach, cette flamme a été humaine. Tout a commencé à Prague, le 16 janvier 1969. C'est le début de l'après-midi. Un jeune homme de 20 ans, brun, le visage carré, le nez émacié, les yeux noirs, un étudiant de l'université Charles, prend sa casquette et sort de sa chambre. Il a mis son manteau, il porte son sac. Au passage, il salue quelques camarades de chambrée et prend la direction du centre-ville de Prague, vers la place Venceslas. La place Venceslas, c'est la plus célèbre de la ville. Elle est un de ces lieux qui, dans les capitales, réunit régulièrement les foules pour célébrer la nation. C'est là qu'on se retrouve pour communier ensemble, pour se féliciter ou au contraire pour partager des drames. Peut-être pense-t-il à cela, Jan Palach, ce 16 janvier 1969, à ces soubresauts de l'histoire qu'a connue cette place, véritable cœur des Pragois, au moment où il arrive devant le Musée National. Le Musée National, c'est un grand monument, une sorte de mur d'ombre qui imprime sa marque sur le sol. Jan dépose son manteau et son sac sur une balustrade, sort une bouteille, commence à s'asperger du liquide qu'elle contient et puis gratte une allumette. Le feu prend instantanément. Des témoins assistent à la scène. Certains depuis le trottoir, d'autres depuis la rue d'en face, depuis les fenêtres même d'un bus qui passe. Une personne traverse la rue au même moment. C'est toute la place Venceslas qui d'un coup s'arrête face à cette image terrible. Jan tourne sur lui-même. Il est recouvert de flammes. Il crie, il appelle. C'est la stupeur. Pendant quelques secondes, les gens sont pétrifiés avant que quelques badauds se précipitent vers lui, enlèvent leur manteau et le recouvrent pour essayer d'éteindre le feu qui le consume. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive et emporte en urgence la victime. Juste avant, dans un souffle, Jan Palach mentionne une lettre qu'il aurait écrite à une des femmes qui lui a porté secours. Sous le choc, cette jeune femme reprend ses esprits et se dirige vers la balustrade, vers le manteau et le sac laissés par Jan Palach. Elle ouvre la sacoche et à l'intérieur tombe effectivement sur une lettre. Voici ce qu'avait écrit Jan Palach.
Étant donné que nos donations sont au bord du désespoir, nous avons décidé de protester et de réveiller le peuple de ce pays de la façon suivante. Notre groupe est composé de volontaires, déterminés à s'immoler par le feu pour notre cause. J'ai eu l'honneur de tirer au sort le numéro 1. Par conséquent, il me revient le droit de rédiger les premières lettres et de devenir le premier flambeau. Voici nos revendications. Premièrement, la suppression de la censure. Deuxièmement, l'interdiction du bulletin Spravi. Si nos revendications ne sont pas satisfaites d'ici 5 jours, c'est-à-dire au 25 janvier 1969, et si le peuple ne manifeste pas son large soutien par une grève illimitée, d'autres flambeaux s'allumeront. Flambeau numéro 1. PS. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de plus de lumière.
Même avec une telle lettre, comment expliquer ce geste? Comment comprendre qu'un jeune homme d'à peine 20 ans décide de s'immoler par le feu? Il faut dire qu'il n'est pas le premier, dans les années 60, à faire ce geste. Tout a commencé en 1963, au Vietnam. Un moine bouddhiste a décidé de s'immoler par le feu contre le régime dictatorial de son pays, et puis d'autres ont suivi. Yann Palach est au courant de cette démarche. On peut penser qu'il la partage, il l'a évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises. Plus tard, en septembre 1968, en Pologne, Richard Siviek, un ancien membre de l'Armia Krajowa, la branche non communiste de la résistance anti-nazie polonaise, s'était immolé sur les gradins d'un stade à Varsovie pour protester contre la participation de son pays à l'occupation de la Tchécoslovaquie. L'occupation de la Tchécoslovaquie, oui. Pour comprendre le geste de Jan Palach, il faut revenir quelque temps en arrière, un an exactement, en janvier 1968, au moment où tout a basculé à Prague. En janvier 68, Alexander Dubček succède à Antonin Novotny à la tête du Parti communiste. L'homme est porteur d'une immense espérance pour la Tchécoslovaquie. Le pays, depuis la Seconde Guerre mondiale, a traversé le nazisme, la libération par l'armée rouge soviétique et puis il a vécu le coup de Prague. Ce 25 février 1948, quand Clément Gottwald, Premier ministre, a établi définitivement une dictature communiste en Tchécoslovaquie. Une nouvelle constitution a transformé ce pays en une sorte d'état satellite vassal de l'Union soviétique. Comme dans les autres pays de l'Est, le régime communiste a éteint toute possibilité de liberté intellectuelle et humaine. Et pourtant, le communisme reste une espérance. Le pays, toutefois, est entré progressivement en crise. Crise économique d'abord. À partir de 1961, le système d'économie calqué sur celui de l'Union soviétique ne convient plus à ce pays industrialisé. Le taux de croissance s'est effondré entre 1961 et 1965. Pire, une tentative de réforme économique de 1965 s'est soldée par un échec et la bureaucratie a encore pris du pouvoir face aux techniciens qui espéraient simplement permettre aux Tchèques de vivre mieux. C'est à partir de ce moment-là que des oppositions ont commencé à se fédérer. Jusqu'à présent, au sein du Parti communiste, on avait l'impression de vivre en survie. Et donc, tout le monde devait rester uni. Depuis la déstalinisation en 1956, c'est-à-dire la volonté des communistes soviétiques de sortir de la dictature personnelle arbitraire, on peut désormais avoir un contre-modèle. Et donc au sein du Parti communiste tchécoslovaque, certains disent qu'il est temps qu'il y ait un changement de ligne. Et ils rejoignent ceux qui, à l'extérieur du Parti communiste, voudraient obtenir plus de liberté, en quelque sorte un vent nouveau. En 1967, du côté des intellectuels, on peut même dire qu'une sorte de révolte couve. Les écrivains réunis en congrès au mois de mai et de juin ont réclamé la liberté d'expression. Mais évidemment, le pouvoir monopolisé depuis 1956 par Antonin Novotny ne veut rien entendre. Novotny reste à la fois premier secrétaire du Parti communiste et président de la République et il réagit de manière brutale. Les étudiants sont réprimés au mois de novembre 1967 et les écrivains sont priés de se taire ou de partir. C'est Alexander Dubček, le secrétaire du Parti communiste slovaque, qui mène la fronde à l'intérieur du mouvement communiste. Novotny n'hésite pas à le qualifier de nationaliste bourgeois slovaque. Il n'empêche. Au mois de décembre et de janvier 67-68, la réunion du comité central manifeste le changement d'équilibre et finalement, le 5 janvier 1968, le comité directeur de l'État élit Alexander Dubček en remplacement de Novotny au poste de premier secrétaire. C'est le début du printemps de Prague, mais en réalité, le printemps de Prague de Dubček commence à pas lents. Il y a d'abord une résistance des vieux membres du Parti communiste qui ne veulent pas laisser davantage de liberté. Mais progressivement, Dubček prend des mesures favorables à la nouvelle ligne. Appuyé sur les syndicats, sur les plus jeunes, il réussit à élaborer une nouvelle philosophie du système communiste. Il s'agit de rendre le communisme compatible avec la liberté. La liberté politique d'abord, puisqu'il admet l'abolition de la censure et donc la liberté d'expression. La liberté juridique ensuite, puisque sont réhabilitées les victimes des procès iniques qui avaient été menés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la liberté économique, puisque Dubček admet qu'il puisse y avoir des coopératives qui soient gérées tout simplement par la société. Dès le mois de mars, la presse soviétique et les dirigeants des républiques démocratiques voisines commencent à regarder la Tchécoslovaquie avec inquiétude. Est-ce que le pays ne serait pas victime d'une tentative de déstabilisation ? Au même moment, l'ensemble de la planète est traversé par des mouvements précisément d'agitation. Agitation au Mexique, agitation en Italie, agitation en France, avec le mai 68 qui commence, rappelez-vous, le 22 mars. Après toutes ces transformations, Alexander Dubček, comme un symbole, organise un 1er mai qui doit être une fête générale. Et à cette occasion, il prononce un discours qui montre le nouveau cours.
Cette fête unit toute la Terre. C'est une célébration du travail. C'est la fête du travail qui libère l'homme, lui ôte le sentiment de l'aliénation et l'ennoblit.
Ce 1er mai 1968 est une sorte de triomphe du printemps de Prague. Pendant près de 4 heures, une foule bigarrée défile à la place des parades militaires qui d'ordinaire se tenaient ce jour-là. Tout semble spontané, bon enfant. Il y a les ministres ouvrières qui se mêlent aux jeunes pionniers, les anciens résistants, les déportés, les anciens combattants qui sont là, et puis toute cette jeunesse qui porte l'espoir d'un communisme qui rimerait avec liberté. Dubček est donc poussé par ce mouvement populaire à aller plus loin, mais au même moment, à Moscou, l'inquiétude gagne d'un cran. Il faut dire que le contexte international est très particulier. À la faveur de la guerre froide, des mouvements subversifs se sont développés dans plusieurs pays, pays communistes et pays capitalistes. Il y a, par exemple, cette grève des étudiants à Mexico qui sera noyée dans le sang. Il y a le Mel-Harvey italien avec les grèves dans les universités, dans les usines. Et puis, comment l'oublier ? Il y a ce mai français qui a commencé dès le 22 mars et qui se poursuit avec même une promesse de grève générale. Mais pour l'URSS, tout cela est insupportable car le nouvel homme fort du pays, Léonid Brejnev, commence à avoir des doutes sur la fiabilité du gouvernement tchécoslovaque. Comme si quelque chose était en train d'échapper au grand frère. Pour Jan Palach, cette époque est celle d'une intense émotion. Il est totalement investi dans le nouveau mot d'ordre, du socialisme à visage humain. Il le porte d'ailleurs à l'université où il intègre le conseil académique des étudiants de la faculté. C'est là que se joue la mobilisation de cette jeunesse qui veut porter une nouvelle idée du socialisme. Il le porte encore avec ses camarades de l'école d'économie et il le porte enfin lors de différents voyages qui vont l'emmener l'un à Leningrad, en Union soviétique, au cours de l'été et l'autre, nous y reviendrons en France, à l'automne. Jan Palach, à Leningrad, en Union soviétique, à l'été 1968, cela signifie qu'il va manquer une partie des événements qui se déroulent dans son pays. Mais le 17 août, il rentre dans son pays, dans un petit village, et c'est là qu'il reçoit une bonne nouvelle. Il avait demandé à quitter la faculté d'économie et il est admis, comme il le souhaitait, dans la faculté de lettres, sans doute parce qu'à cette époque, les écrivains ont l'un des plus grands prestiges qui se puisse imaginer. Le 17 août donc, le voici dans son petit village et c'est de là qu'il entendra l'événement. Le 20 août 1968, au soir, 600 000 soldats du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie. Dès le lendemain, les reporters d'Europe 1 font le point de cette invasion.
Depuis le début de l'après-midi, toutes les villes de Tchécoslovaquie, toutes les grandes villes de Tchécoslovaquie ont été prises. C'est du moins ce que j'ai pu apprendre depuis Vienne. Des lourds tanks russes ont pris position à tous les points stratégiques et contrôlent maintenant toutes les grandes routes, tous les grands axes routiers. Leurs équipages portent le casque et la combinaison de combat.
Vous l'avez compris, la surprise est totale, pas seulement en Europe occidentale, mais aussi en Tchécoslovaquie. On n'imaginait pas une réaction si rapide, si forte et si radicale. Alors bien sûr, dès le 21, il y a des manifestations qui sont organisées pour protester contre cette invasion et cet écrasement du gouvernement tchécoslovaque. Mais, en fait, très rapidement, les dirigeants du Parti communiste trouvent un accord avec l'Union soviétique, pour ne pas dire capitule. Et bientôt, l'habitude est prise de voir dans les rues, pendant quelques mois, ces soldats russes présents dans la capitale tchécoslovaque. Et précisément, Jan Palach y est rentré. À la fin du mois d'août, il est là et il assiste, impuissant, à l'écrasement de son espoir, de ce socialisme à visage humain dont il avait tant rêvé. Avec ses camarades étudiants, ils essayent progressivement de manifester leur mécontentement, leur désaccord face à la capitulation du pays. Mais bientôt, le jeune homme a une chance. Il va partir en France, au mois d'octobre, pour les vendanges. On imagine son soulagement, cette étrange impression d'être dans le pays de la liberté au lendemain de mai 68. Et qui plus est, de le faire dans des territoires où l'on peut circuler librement, boire du vin, s'amuser. Il rentre ensuite de nouveau en Tchécoslovaquie, à Prague, et avec un ensemble d'étudiants, notamment des anciens camarades de l'école d'économie, il commence à manifester par des inscriptions sur les murs, par des tracts, leur désaccord avec la présence de ces soldats des pays frères sur leur territoire. C'est dans ce contexte que Jan Palach a donc décidé de s'immoler par le feu le 16 janvier 1969. Retrouvons-le maintenant dans sa chambre, à l'hôpital. Il est allongé entre la vie et la mort sur son lit, le corps brûlé à plus de 90% au troisième degré. C'est une femme médecin qui a décidé d'enregistrer ses derniers mots.
Petit Jan, pourquoi tu t'es fait ça ?
Je voulais réveiller les gens.
Ton geste touche tout le monde. Cela suffit déjà pour que le monde entier soit au courant.
Eh bien moi, il faut que je reste modeste. Je n'ai pas le droit de me sentir trop fier. On ne doit lutter que contre le mal qu'on est à même d'affronter.
Il y a un doute sur le contexte exact de son geste. Peut-être faisait-il partie d'une organisation plus large dans laquelle d'autres personnes, à leur tour, auraient dû s'immoler de manière à faire monter la pression sur le gouvernement tchécoslovaque et à gagner une sympathie internationale. Quoi qu'il en soit, Jan Palach laisse de nombreuses lettres qui éclairent son geste et sa volonté de sauver ce qui pouvait l'être d'un socialisme libéral à la Tchécoslovaque. Ce dimanche 19 janvier 1969, Jan Palach succombe à ses blessures. Le jour même, l'émotion est si considérable que, bravant les interdits, les Pragois se réunissent sur la place Venceslas. Et un reporter d'Europe 1 assistait à l'événement.
J'ai retrouvé la ville comme je l'avais laissée. J'ai retrouvé ce qui n'était plus que des souvenirs. Des affiches placardées sur les murs, des croix, des milliers de petites bougies autour de la statue Saint-Venceslas. En face, le mur du musée, criblé de balles, souvenir du mois d'août. Il fait nuit, il fait froid, la neige recouvre les toits dorés de la vieille ville. Dans la rue, les passants marchent, personne ne sourit, on est préoccupé. Que va-t-il se passer ? Jusqu'à samedi, m'a dit un étudiant, c'est la veillée funèbre de Jan Palach, mais après. Et pourquoi les Russes ne disent-ils rien ? Et pourquoi chaque jour, le président Svoboda ou le chef du gouvernement prennent-ils la parole ?
À l'annonce de la mort de Jan Palach, curieusement, les drapeaux sont mis en berne. Comme si le pays se reconnaissait à travers son martyr. Comme s'il faisait écho aux autres martyrs suppliciés dès le XVe siècle comme Jean Hus pour avoir été hérétique dans un monde qui devait normalement être libre. C'était comme un rejeu de la résistance de la Tchécoslovaquie face au nazisme. Cet héroïsme célébré à Prague l'était bien évidemment aussi dans le monde occidental. On comprenait à ce moment l'élan qui s'était joué en Tchécoslovaquie et il faisait écho à cet espoir de liberté que l'ensemble des peuples du monde appelait. Le sacrifice de Jan Palach avait donc rallumé la flamme de la liberté au sein de la population tchécoslovaque. La police avait pourtant tenté d'arrêter des éléments perturbateurs, mais le 24 janvier 1969, le jour de ses funérailles, les rues silencieuses sont remplies de tout un peuple qui est venu célébrer le sacrifié. L'hommage a été solennel dans la cour du Carolinum en présence de sa mère et de son frère. Le recteur de l'université Charles a souligné l'héroïsme de cet acte et combien il était l'expression d'un cœur pur, l'expression d'un cœur qui aimait la vérité, la liberté et la démocratie. Bien sûr, le message de Jan Palach mettra longtemps avant d'être entendu parce que l'Union soviétique resserre son étau sur le pays. Malgré cela, le 25 février 1969, Jan Žižek, un tout jeune homme de 18 ans, un étudiant dans les chemins de fer à l'université technique, se rend sur le banc 39 de la place Venceslas. Là, après avoir bu de l'acide et s'être aspergé d'un dissolvant, il s'immole publiquement. Voici comment il motivait son geste.
Citoyens de la République tchécoslovaque, puisqu'en dépit de l'acte de Jan Palach, notre vie est en train de reprendre son cours antérieur, j'ai décidé de réveiller votre conscience en devenant le flambeau numéro 2. Je ne le fais pas pour être pleuré ou pour devenir célèbre, ni parce que je suis devenu fou. J'ai décidé de recourir à cet acte pour qu'enfin vous vous ressaisissiez et que vous refusiez de vous laisser manipuler par une poignée de dictateurs. Rappelez-vous, une fois qu'on a la tête sous l'eau, peu importe de savoir à quelle profondeur, nous n'avons rien à craindre sinon la mort. Or, ce n'est pas la mort qui est terrible, mais l'agonie. Et nous assistons à une lente agonie de la liberté nationale. Que mon flambeau éclaire vos cœurs et illumine votre raison. Que mon flambeau éclaire le chemin vers une Tchécoslovaquie libre et heureuse.
Les autorités ne pouvaient pas étouffer l'affaire, mais elles ont choisi d'interdire que les obsèques se déroulent à Prague, manière de réduire leur impact. Au mois d'avril, ce sera au tour de l'ouvrier Evzen Ploček, le 4 avril 1969, à Jihlava, dans le sud du pays, de s'immoler par le feu. Ces tentatives de suicide de jeunes Tchèques ont été en partie cachées par le pouvoir, mais il n'est pas parvenu à en arrêter le message. Bientôt, Dubček, à son tour, est chassé de la tête du parti. C'est bien la fin du printemps de Prague. L'homme qui arrive au pouvoir a le soutien et la confiance de Brejnev et de l'Union soviétique. Il s'appelle Gustav Husák. Avec lui, le communisme règnera en maître jusqu'aux années 80. Mais le geste de Jan Palach n'a pas été effectué en vain. Il a un tel prestige que les autorités, pour essayer de l'amoindrir, décident de transférer son corps incinéré dans son village natal. Toutefois, quelques années plus tard, en 1977, le mouvement de résistance contre le communisme s'est organisé et il signe un manifeste qui portera le nom de Charte 1977. À la tête de ses contestataires se trouve Václav Havel. En 1989, 20 ans après la mort de Jan Palach, la Charte 77 publie un tract où elle invite à aller se recueillir sur la tombe de Jan Palach. Pendant une semaine, les militants se rendront là, ce sera la semaine Palach. C'est au cours de cette manifestation que Václav Havel est arrêté une fois de plus. Bientôt, il sera libéré, une brèche sera ouverte dans le système qui disparaîtra en quelques jours. Au sein de ce qu'on a appelé la révolution de velours. On dit souvent qu'il a fallu 10 ans aux Hongrois pour gagner la liberté, 10 mois aux Allemands de l'Est pour avoir leur transition, mais que les Tchèques ont réussi ce tournant en 10 jours. Quelques mois plus tard, en effet, Václav Havel deviendra président de la nouvelle République libérale de Tchécoslovaquie et, pour la première fois en 1990, le 16 janvier aura lieu une commémoration officielle de l'acte de Jan Palach. Vu de nos jours, les auto-immolations représentent des actes d'une violence incroyable tournée contre soi-même. Ils sont le signe d'un malaise profond et d'une détermination exemplaire chez ces personnalités qui décident de passer à l'acte pour contester un système contre lequel ils se sentent impuissants. Si l'on se souvient aussi bien d'Jan Palach, des moines bouddhistes sud-vietnamiens, de Mohamed Bouazizi, et d'Abderazak Zorgi, c'est parce que ces hommes, à un moment donné, ont voulu, dans leur singularité, manifester ce qu'il y avait d'inacceptable dans un système. En somme, ces torches humaines ne sont pas à regarder comme de simples personnes ayant tenté de se suicider. Ce sont bien des guides, des phares, qui entendaient donner un message, celui de la liberté pour un peuple. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Ce podcast est une création Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda. Il a été préparé par Simon Maisonneuve, réalisé par Christophe Daviau. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.